là, sachant que les secrets de ces matériels ne sont pas forcément connus. Voilà. Alors, vous savez que la dernière fois, nous avions, et c'était la troisième séance, eu l'occasion de parler du siècle d'or de la peinture espagnole, hein, puisque le XVIIe siècle, on l'appelle communément le siècle d'or. Et la dernière fois, on avait travaillé autour d'un peintre qui n'est autre que Velázquez, vous vous en souvenez. Alors, je sais pas où je vais me mettre pour ne pas vous boucher l'écran, parce que c'est vachement pratique comme ça. Là. Vous aurez remarqué. Hein. Voilà. Et donc, cette fois, je vais vous... je crois que je vais rester là, en fait. Hein, c'est plus simple. Hein. Voilà. Cette fois, je vais donc vous... faire travailler, sur d'autres artistes qui sont illustrés au moment du siècle d'or. Alors, je n'insiste pas sur nos petites règles, et je voudrais que, d'emblée, nous entrions dans le vif du sujet, en observant une œuvre. Vous savez que souvent, c'est le moyen, dans ces séances, d'entrer dans le thème de la séance en question, et je voulais vous montrer une première œuvre sur laquelle... je voudrais que vous forceriez un petit peu. Ça va, vous voyez à peu près. Alors, c'est pas pratique, on ne voit rien. Enfin, on va essayer de travailler quand même. Bien. Alors, voilà la première œuvre sur laquelle je voudrais vous faire travailler, qui va nous permettre de rentrer dans cette question de la peinture au siècle d'or en Espagne, au XVIIe siècle, autrement dit, l'époque de Velázquez. J'aimerais donc que vous regardiez un petit peu cette œuvre et que vous me disiez de quoi il s'agit, qu'est-ce que vous y voyez. Alors, d'abord, cette œuvre est une œuvre, je tiens à le préciser, qui est de très grand format. C'est une peinture sur toile, hein, décidément assez monumentale, qui appartient aux collections du musée du Louvre, d'ailleurs. Mais que voyez-vous? Qu'est-ce qui... vous frappe peut-être sur cette œuvre. Quelle est l'iconographie qui s'y développe?
Il y a des anges et puis il y a un saint.
Alors, il y a effectivement, on voit des anges, surtout de la partie droite, oui.
Un saint dans un nuage.
On voit une espèce de saint dans un nuage, là, effectivement, à gauche.
Et puis là, il y a un moine.
Et là, on voit des personnages, dont un moine qui...
Qui explique?
Béni, non?
Ou qui s'étonne.
Pourquoi est-ce qu'il s'étonne? Pourquoi est-ce que ce moine-là, il s'étonne?
Oui.
Effectivement, c'est pas très souvent qu'on voit des gens en lévitation. Donc, a priori, les gens, et notamment le moine qui entre ici, on voyait qu'il il entre, hein, il est en train d'ouvrir la porte, hein, il tombe sur ce moine en lévitation, il est un peu surpris, alors il lève la main, d'ailleurs lui, il lève pas la main, mais enfin, il a l'air un peu surpris aussi. Bien. Effectivement. Donc on a ces gens qui entrent, ce moine qui est là dans un nuage en lévitation, et là des anges. Qu'est-ce que signifie, qu'est-ce que représente, qu'est le sujet de cette œuvre-là? Oui, il y a plein d'anges, effectivement, il y a quantité d'anges.
Il y a une scène au fond.
Il y a une scène au fond, et alors qu'est-ce qui se passe dans la scène au fond? Pardon? C'est une cuisine, oui, dans une auberge, une cuisine, effectivement.
Dans un monastère, des fois.
Dans un monastère, peut-être. Il y a des moines, donc on a des chances d'être dans un monastère.
Oui, mais il y a une dame qui est un peu déshabillée dans le monastère. À droite, peut-être pas.
Alors, à droite, oui, qu'est-ce que vous voyez?
Des femmes,
des femmes qui mettent les assiettes, oui, c'est les assiettes qui mettent, c'est les femmes qui mettent les assiettes, forcément, hein. Normal, rien d'anormal jusque là.
Sa tenue aussi.
Pardon?
Sa tenue contraste
avec le reste.
Alors, il y en a un autre avec des ailes quand même.
On a un autre avec des ailes ici. C'est-à-dire qu'on a là une femme et là, qui met le couvert, en quelque sorte, et là, un autre personnage avec des ailes. C'est peut-être plutôt un ange que vous prenez là pour une femme. D'ailleurs, je pense que ça, c'est l'ange, c'est l'aile de l'ange. Et on devine une autre aile ici, et derrière, il y a un autre ange. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de place non plus, mais enfin, bon, voilà. Donc, effectivement, vous avez là des anges, grands ou petits. Qu'est-ce que vous avez d'autre dans cette partie du tableau?
Un moine là-haut, non?
Un moine là-haut, à quel endroit?
Oui.
Ici, oui. Qui bénit?
Oh non.
Ah, il a l'air étonné, lui aussi. Hein. Pourquoi est-ce qu'il est étonné, cet ange-là? Parce qu'il y a plein d'anges. Parce que moi, j'ai jamais vu tellement de moines dans l'évitation. Je comprends qu'eux soient étonnés. Mais c'est vrai que voir des anges, c'est un peu étonnant aussi. J'en ai pas vu des tonnes. Et je pense que le moine qui est là est lui-même un peu étonné de voir, en débarquant dans cette cuisine, qu'il y a des anges. Quoi, hein. Ils font quoi, les anges?
La cuisine.
Ils font la cuisine. En fait, les anges font la cuisine. Pardon? Donc, les anges font la cuisine. Hein.
Si on avait des anges.
Oui, ce serait bien d'avoir des anges. Hein. Je sens qu'il y a beaucoup d'anges. Je sens une certaine envie monter.
Oui, oui.
Voilà. Donc, on a des anges qui font la cuisine. Alors, je sais pas, expliquez-moi un peu cette scène. Qu'est-ce que c'est que cette scène? Qu'est-ce que ça raconte? Qu'est-ce que ça dit? Quel est le but, finalement, de ce tableau? Qu'est-ce que représente finalement cette scène?
C'est à propos de
le moine aurait une vision. Donc c'est un moine. Mais alors, quel moine a quelle vision? C'est Saint Dominique alors. C'est un dominicain? C'est Saint Dominique. Il n'est pas tellement noir et blanc. Et puis il manque peut-être une autre chose pour que ce soit Saint Dominique. Alors, une auréole, effectivement, c'est bienvenu de la part d'un saint. Et puis, il y a aussi un attribut qui est très fréquent avec Saint Dominique, qui explique son nom même. Hein. Le nom Dominique vient de quoi? Ah non. Dominus, et puis... Et puis le chien. Dominique, c'est Dominicanis, le chien de Dieu. C'est pour ça que Dominique est toujours représenté avec un chien. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus fidèle qu'un chien. Hein. Dominique, c'est le chien de Dieu. C'est le Dominicanis. C'est pour ça que Dominique est toujours représenté avec un chien. Hein, parce qu'il est le chien de Dieu. Hein. Et vous voyez, toujours Dominique est représenté avec un chien qui généralement a d'ailleurs dans sa gueule un morceau de bois dont le bout est embrasé, n'est-ce pas? C'est l'embrasement de la foi, en quelque sorte. Dominicanis, c'est donc là dont vient le lien. Il est le chien de Dieu. Alors, ce n'est pas Saint Dominique, il n'en a pas l'habit, puis il n'y a pas de chien, ce n'est pas Saint Dominique. Hein. Mais effectivement, c'est une vision ou plusieurs visions d'ailleurs?
Le tableau est en deux parties.
Alors voilà, le tableau est en fait en deux parties. Hein. Tiens, vous avez... Ben, la partie droite et la partie gauche. Hein. Qu'est-ce qui se passe dans la partie droite?
C'est dans la cuisine.
C'est dans la cuisine. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans cette cuisine?
Les
anges font la cuisine. Mais il n'y a donc pas que les anges qui avaient la cuisine.
Il y a aussi un moine.
Il y a un moine. Et le moine
qui attend que ce soit.
C'est sans doute le même que lui, absolument. Hein. Et ce moine, c'est un moine qui... pourquoi est-ce qu'il arrive dans la cuisine? Pardon?
Il est admis au paradis.
Ah, parce qu'autrement dit, la cuisine, c'est la cuisine du paradis. Je ne sais pas si c'est une cuisine au paradis. Hein. On verra.
Non, c'était son boulot.
Voilà, c'était son boulot. C'est-à-dire que le moine, visiblement, va à la cuisine parce qu'il est de corvée de cuisine, si j'ose dire. Hein, voilà. Hein. Mais quand il entre dans la cuisine, qu'est-ce qui se passe? Il voit que les anges sont en train de faire la cuisine à sa place. Il y a de quoi être surpris. Hein.
C'est un miracle.
Hein. Donc, vous avez dans la partie droite du tableau des anges qui font la cuisine sous les yeux absolument sidérés du moine qui était pourtant chargé de l'affaire. Hein. Et puis dans la partie gauche, vous avez sans doute le même moine et en lévitation. Hein. En lévitation. Et donc, visiblement, le supérieur du monastère arrive avec de nobles personnages et hop, tombe sur le moine en lévitation, ce qui est, encore une fois, une chose qui n'est pas fréquente ici.
Et pourquoi c'est le même?
Mais pourquoi, oui.
J'ai dit peut-être le même. Hein. C'est possible, ça n'est pas tout à fait certain. À vrai dire, il reste sur cette œuvre pourtant illustrissime quelques interrogations. Hein. À vrai dire, on ne sait même pas de quel moine il s'agirait. Il y a plusieurs moines plus ou moins dont la vie plus ou moins légendaire pourrait correspondre à cet épisode. D'ailleurs, ce tableau, on l'appelle comment? C'est un tableau très célèbre qui est au Louvre, encore une fois. Hein. On l'appelle, à vrai dire, de deux manières, mais il y a une manière plus populaire que l'autre qui fait que ce tableau, par exemple en Espagne, est extrêmement populaire. Il s'appelle comment ? La cuisine des anges. Hein. La cocina de los ángeles. La cuisine des anges. Hein. Ce tableau s'appelle La cuisine des anges, un tableau célébrissime, et qui donc représente ce miracle des anges qui font la cuisine à la place du moine qui était censé la faire. Est-ce que vous savez l'auteur de cette œuvre ? Murillo. Hein. Effectivement, c'est une œuvre de Murillo, hein. La cuisine des anges. Voilà. Alors, qu'on appelle également souvent le miracle de frère Francisco. Le problème, c'est que il y a beaucoup de frères qui répondent à ce nom-là, Francisco, ce qui veut dire que, voilà, il y a, on va venir pas mal de possibilités. Hein. Donc, si vous voulez, le sujet est aussi clair que vous l'avez vous-même vu. Par contre, le thème précis auquel, enfin plutôt le thème est clair, mais le sujet précis auquel il se rattache, là, les moins. En tout cas, c'est une scène d'extase, de miracle, ça c'est sûr. Et le nom populaire de cette œuvre, c'est décidément la cuisine des anges. Ce tableau, je le précise, faisait partie de tout un cycle qui avait été commandé pour un couvent où il y avait une dizaine de peintures commandées par Murillo, qui aujourd'hui se trouve dans différents lieux et musées du monde entier. Mais c'est une chose qu'on trouve très souvent dans l'Espagne du XVIIe siècle. Les monastères comme ça commandent des cycles picturaux. Ce tableau faisait partie d'un cycle pictural particulier. Bien. Alors, je crois que ce tableau, encore une fois, va nous faire rentrer assez bien dans ce que c'est que la peinture en Espagne à l'époque du siècle d'or. Et justement, j'aimerais que dans un deuxième temps, on regarde toute une série d'œuvres d'artistes espagnols du XVIIe siècle. Alors là, je tiens à vous le dire, heureusement d'ailleurs, puisqu'on est un peu en retard, je vous ai un peu mâché le travail. Hein. C'est un peu mâché le travail parce que les œuvres que je vais maintenant vous montrer, j'ai mis à chaque fois les noms des artistes. Vous n'avez pas à la trouver. Dans la troisième partie de cet exercice, vous aurez par contre à y trouver. Hein ? Mais là, dans cette deuxième partie, non, hein, ce sera marqué. Par contre, ce que je voudrais pour chacune des œuvres que l'on va voir, c'est qu'éventuellement, quand il est un peu compliqué, on détermine le sujet, ça c'est une chose, et qu'on essaie de voir au fur et à mesure des œuvres ce qui en fait la caractéristique, la singularité, la nature finalement. Hein. Ça va nous permettre ça, à la fin de cette deuxième partie de cette séance, de nous rappeler, de résumer ce que c'est que le profil de la peinture en Espagne au siècle d'or, c'est-à-dire au XVIIe siècle. Ok ? On commence ? Alors, je voudrais d'abord vous montrer cette œuvre-là, qui est une œuvre d'un artiste qui s'appelle Juan Sanchez Cotán. Hein. Qu'est-ce que c'est ? Une nature morte. Hein. Donc c'est une nature morte. Vous pouvez me dire en gros ce qu'il y a dans cette nature morte, ce qui est présenté ? Un cardon. Un homme cardon. Ouais.
Des oiseaux.
Des oiseaux. Ouais.
Des citrons.
Il y a des citrons, effectivement.
Des navets.
Des navets.
Une perdrix.
Oui, il y en a même deux. Hein. Deux. Des oiseaux, et puis ça ? Des oiseaux encore. Hein. Vous savez que ça, c'était la manière de commercialiser certains petits oiseaux. C'est assez tragique, je trouve, d'ailleurs, comme ça. On les présentait comme ça, dans une espèce de tige de bambou, n'est-ce pas ? Et les uns, serrés par le kiki, les uns à côté des autres. Bien, voilà. Donc, une nature morte. Bien. Cette nature morte, à votre avis, quel est son but, son projet ? C'est de présenter un navet, trois cardons, puis voilà. Ouais.
Décorer une cuisine.
Décorer la cuisine des anges, par exemple.
C'est très bien.
Très bien peint, effectivement. Hein.
Là, ils ont fait le marché.
Ouais. Donc, le but, c'est de présenter des légumes, quoi. Peut-être. Alors, on ne le sait pas, mais c'est une destination qui est, comment dire, pas forcément justement culinaire. C'est-à-dire que ce genre de tableau n'était pas fait forcément pour être dans une cuisine ou dans une salle à manger. C'est un tableau qui peut être, disons que ce genre d'œuvre s'adressait à des publics d'assez haut niveau, si vous voulez. Hein. C'est, faut pas imaginer ça dans des sous-pentes un peu secondaires. Hein. C'est donc une œuvre qui n'est pas faite ni pour des populations un peu secondaires, parce que c'est par exemple une nature morte, donc c'est moins bien. Donc c'est fait pour des classes inférieures de la société, je dirais, ni pour des espaces hein, secondaires.
Pour montrer le savoir-faire du
peintre. Alors, il y a effectivement une sorte de brio, effectivement. Hein. On a là une sorte de catalogue du savoir-faire du peintre. C'est un élément, certainement.
Il y a presque aussi une imitation d'une table de cuisine.
Oui, et puis ça sort de...
Non, oui, c'est plutôt une niche.
Oui. Oui. Oui, c'est une sorte de rebord de fenêtre, de niche, peut-être. Hein. Et il y a effectivement ces éléments-là, ouais. Donc, il y a une sorte de côté un peu trompe-l'œil, pourrait-on dire. Hein. Donc il y a le brio du peintre qui s'étale, il y a cette dimension de trompe-l'œil, on est dans une niche, dans une fenêtre. Bon, est-ce qu'on peut y trouver autre chose ? Alors, on est effectivement dans une sorte de réalisme total, c'est-à-dire que c'est même pas, si j'ose dire, une sorte de chou-fleur qui aurait par exemple de très belles feuilles, c'est vraiment des navets, un cardon un peu effeuillé, enfin voilà, c'est, vous voyez, c'est le légume au niveau basique, hein. Il y a en effet une sorte de réalisme extrême, hein. On est vraiment au niveau, le plus bas, entre guillemets, hein, le plus basique du réalisme, absolument. Ouais.
Ils sont coupés et les oiseaux sont morts.
Les oiseaux sont morts.
Une vanité.
Alors, il y a sans doute, effectivement, ces dimensions de vanité. Hein.
Ça va pourrir.
Voilà, absolument. Tout ça n'est pas fait pour rester, pour demeurer. Autrement dit, il y a quelle autre idée derrière cette nature ? Voilà, l'idée du temps. Et puis donc une idée qui... Bon, c'est bien qu'on est dans l'Espagne du XVIIe siècle. Donc cette idée du temps qui passe, c'est une idée qui est... De quel ordre, si j'ose dire ?
Religieuse.
Hein. C'est-à-dire que vous avez une nature morte, des légumes que vous avez dans votre jardin, qui ne sont pas forcément super frais, hein, qui sont pas dans des mers super réalistes, par contre. Et ces légumes basiques, hein, qu'on met là sur le bord d'une fenêtre, sont en fait des choses, encore une fois, extrêmement basiques, et qui pourtant sont là pour évoquer des choses carrément métaphysiques, si vous voulez. Vous avez là quelque chose, il ne faut pas imaginer que ça va être simplement une nature pour montrer trois navets dans un bout de cuisine. Hein. Ce n'est pas ça l'idée. Hein. C'est de montrer à travers le savoir-faire du peintre, effectivement, quelque chose qui doit nous amener une sorte de réflexion sur la vie, finalement. Hein. On est là devant une nature morte, mais dont le but est métaphysique. Hein. D'accord ? Alors, pas que, on est d'accord. Hein. C'est aussi pour montrer, en effet, la qualité de certains légumes, même de base. En quelque sorte, on peut s'émerveiller devant des pommes. Hein. OK. Mais au-delà de ça, il y a effectivement une interrogation. On est dans l'Espagne du XVIIe siècle. Hein. L'Espagne du XVIIe siècle ne va pas se contenter d'aligner des carottes, si vous voulez. Hein. Il y a derrière ça une idée, et cette idée, elle est puissamment, profondément religieuse. En tout cas, voilà cette œuvre de cet artiste, hein, Sanchez Cota. Je vais vous montrer une deuxième œuvre d'un artiste qui s'appelle Luis Tristán, qui est un artiste dont vous voyez qu'il a vécu à Tolède, hein, durant toute sa vie, à la fin du XVIe et au début du XVIIe siècle. Le sujet de cette œuvre ?
Trinité.
La Sainte Trinité, hein, pas compliqué. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, pas très compliqué. Qu'est-ce que vous suggère cette œuvre ?
La facture rappelle un peu le gréco.
Ah, absolument. La facture rappelle un peu le gréco. D'ailleurs, il y a quelque chose... cette remarque est d'autant plus juste, d'autant plus vraie. Qu'est-ce qui, d'ailleurs, vous rappelle le gréco dans une œuvre telle que celle-là ?
L'allongement,
absolument. Hein, on a un personnage qui n'en finit pas, là. Hein. Ouais. Et puis quoi encore, peut-être ? Pardon ?
Les couleurs,
effectivement. Hein, c'est jaune, absolument. Même si les couleurs ne sont peut-être pas extraordinaires, mais les couleurs, absolument.
Ils sont à peu près contemporains.
Ils sont à peu près contemporains. Et de la même ville. Hein, Gréco, c'est Tolède aussi. Hein. D'ailleurs, Luis Tristán a été très proche du Gréco. Hein. Entre parenthèses, il y a l'allongement, mais il y a également la position. Si vous voulez vous rappeler, chez Gréco, il y a quelquefois des contorsions très spéciales. Vous vous rappelez de Laocoon, par exemple, hein, vous vous rappelez, hein, avec des personnages qui se tordent dans tous les sens. Hein. Puis d'autres tableaux encore de Gréco, où bien que les personnages n'aient pas forcément à se tordre, ils se tordent quand même. Donc on a là, finalement, avec l'allongement, les couleurs, la torsion, quelque chose de très proche du Gréco, chez un artiste qui a vécu dans la même ville, et qui, de toute façon, était très proche de Gréco, justement. Hein, qui là, sans doute, parfois...
Ce qui est curieux, c'est que on représente Dieu
Oh, ça...
J'ai mal compris.
Ah, c'est Dieu, effectivement. Mais ça, il n'y a pas de problème. Ça se fait souvent. On a peut-être vu d'ailleurs des Saintes Trinités déjà, non?
Non.
Non? Je crois que je vous en ai montré une la fois dernière. Ou la première fois, enfin la deuxième séance, au moment de Gréco, justement.
Je crois bien qu'il manquait le Saint-Esprit.
Je crois, oui, je crois que je vous... je ne sais pas, il faudra qu'on voit. Mais regardez dans vos, sur vos tablettes. Je crois qu'à la deuxième séance, on a vu une trinité de Gréco. Il y avait peut-être effectivement un Saint-Esprit pas très présent. En tout cas, il y avait au moins Dieu le Père et Dieu le Fils. En tout cas, le fait qu'il y ait Dieu le Père ne pose aucun, si je veux dire, ne pose aucun problème. Hein. Voilà. Alors, ça, c'est une œuvre d'un autre artiste qu'on appelle, enfin, qui s'appelle Herrera. Mais qu'on appelle Herrera l'ancien ou le vieux, tout simplement parce qu'il y a un autre Herrera important, son fils, qu'on appelle Herrera le jeune. Donc voilà, il y a le vieux, le jeune, on commence par le vieux, on verra le jeune un peu plus tard. Alors vous allez peut-être pas reconnaître ce que représente l'œuvre elle-même, hein, mais quel genre de sujet est ici représenté?
Baptême.
Un baptême?
Non, famille, l'enfant.
Une famille qui présente l'enfant, ça pourrait justement être un baptême avec la famille qui présente l'enfant pour le baptême.
Pour le guérir.
Ah, le guérir. Autrement dit, ce serait une scène de guérison.
Hein? Ah, surtout que
qui est-ce qui guérit qui?
Le moine.
Le moine guérit l'enfant. Mais qui a été amené par les parents.
Hein. Mais c'est même Saint François, puisqu'il est les stigmates.
Absolument. C'est-à-dire que vous avez ici, effectivement... Alors, Saint François... Enfin, on verra. Il y a peut-être une surprise. Voilà. Oui, parce que... Enfin, voilà. En tout cas, effectivement, c'est une scène de guérison. C'est-à-dire que des parents ont amené leur enfant qui était malade, et le saint a guéri l'enfant. Donc, c'est effectivement une scène de guérison miraculeuse.
C'est Saint François.
Alors, ça pourrait effectivement être Saint François, c'est une des possibilités. Et en fait, c'est Saint François qui guérit Saint Bonaventure. Voilà. Hein? C'est-à-dire que vous avez là Saint François, effectivement, on voit les stigmates, hein, et il guérit Saint Bonaventure. Qu'est-ce que vous suggère, sur le plan cette fois stylistique, l'œuvre que vous avez là?
On la sent déjà postérieure.
Pardon ?
Les soieries à gauche.
Oui.
Le contraste entre le peuple et l'avant.
Alors oui, il y a une espèce de contraste entre les personnages au premier plan, hein, bien habillés, etc. Et les personnages plus austères. Bon, ce sont des moines aussi. Les moines portent bien de soieries. Hein. Alors il y a effectivement des gens, entre guillemets, du peuple sur la gauche, hein, qui contrastent effectivement avec les gens du premier plan.
Peu de nature.
Il y a très peu de nature. On voit un petit bout d'arbre là, ouais, un petit peu, pas beaucoup, effectivement. Hein.
Il y a une forme triangulaire.
Une sorte de forme... C'est ça, ça. Oui, on pourrait dire ça. Moi, il y a une chose qui me frappe peut-être aussi.
L'uniformité horizontale.
C'est ça, une sorte... Alors, on peut voir effectivement sur un côté triangulaire, mais moi, ce qui me frapperait plutôt, c'est le côté, peut-être au contraire, en frise, quoi. C'est-à-dire que, vous avez des gens... Alors, il n'y a que là où il y a un bout de paysage qu'il faut bien aérer la scène quand même, mais ce qui est quand même étonnant, c'est par exemple ça. Hein. Vous avez une espèce de bloc avec des gens les uns à côté des autres.
Des visages à peine
vus. Oui, c'est ça. On a cette frise de visage, quoi, finalement. Enfin, un côté comme ça, un peu... avec des guillemets un peu archaïsant, comme ça, un peu massif.
Hein.
Oui. Et puis, effectivement, vous avez raison, une espèce de grand contraste entre une sorte d'austérité monacale et puis les personnages du premier plan. Donc, une œuvre de Herrera. Gardez bien, évidemment, tous ces artistes en tête, hein, avec ces caractéristiques qu'on vient de voir, parce que, dans un troisième temps, je vais vous montrer les œuvres, mais cette fois, il n'y aura pas les titres, enfin, pas les noms des artistes. Hein, il va falloir que vous me retrouviez de qui il s'agit. D'accord ? Pardon ?
Il
l'a été. Là, il va déjà beaucoup mieux, puisque Saint François s'en est occupé. Hein. Mais voilà, il va visiblement beaucoup, beaucoup mieux. Là, il a l'air d'avoir repris les couleurs. Mais gageons qu'il y a un instant, il n'était pas très en forme. Hein. Voilà une œuvre d'un artiste qui s'appelle Antonio de Pereda. Alors là, oui, qu'est-ce que c'est ? Voilà, c'est une vanité, hein, c'est le coup classique. Hein. Vous reconnaissez quoi comme objet habituel de ces vanités? Crâne, alors là, il y en a. Hein. Il y en a. Hein. Il y a de l'argent. Hein.
Le sablier.
Là. Il y a le sablier. Le sablier là. Hein. Et d'ailleurs, il y a l'horloge aussi. Hein. Il y a la maintenant, le globe terrestre.
La monnaie.
Oui, il y a l'argent. La monnaie, l'argent, enfin, une, c'est d'ailleurs peut-être une médaille.
Non, mais il y a des pièces de monnaie aussi.
Oui, il y en a là aussi, oui.
Les colliers.
Des colliers.
Le jeu, les cartes.
Le jeu, il y a les cartes, là.
La chandelle.
La chandelle, oui, qu'est-ce qui se passe avec la chandelle, d'ailleurs ? Elle est éteinte. Hein. Il y a d'autres choses encore.
C'est un ange
au milieu. Mais lui, finalement, il sert à quoi, l'ange ? Pardon ? C'est ça, c'est un peu l'intercesseur entre nous, et c'est à nous rappeler, c'est, il a un rôle pédagogique, hein, du genre, vous voyez ce que vous allez devenir, de toute façon, il y a le temps qui passe, pas la peine d'être pris. Oui, il y a la guerre aussi, avec quoi ? Voilà, c'est, je ne sais pas si c'est un bouclier, ça. Voilà, il y a une armure, hein. Il y a le fusil, là. Hein. Il y a un médaillon, effectivement, notamment là.
Oh, et d'autres.
Il y a celui-là. Il y a ça.
Oui.
Ça, c'est quoi ?
C'est des souvenirs.
Des portraits.
Des portraits ?
Des miniatures.
Ouais.
Mais des mémento, peut-être.
Oui. Des portraits de qui ?
Il y a deux, trois femmes.
Trois femmes. C'est aussi pour montrer que ce que ça peut être fait pour un homme, manifestement. Hein. Que la chair, à quoi ça sert hein. Voilà, c'est l'idée des vanités de la vie, finalement. Hein. Et l'ange montre ça. Jusqu'à quoi, là, d'ailleurs ? Les livres, c'est-à-dire la connaissance. Hein. Il y a, voilà, une sorte de dénonciation de toutes les vanités du monde, qui, de toute façon, terminent toutes au même endroit.
Et qu'est-ce que c'est que cette espèce d'armure ?
Eh bien, ces éléments que vous avez là, il y a même un casque derrière. Hein. C'est ce qui évoque, effectivement, la guerre. Même les arts de la guerre, hein. Qui sont si nobles, sont inutiles. C'est finalement ce que nous dit ce tableau, une vanité, j'allais dire, assez complète, hein, où on voit à quel point toutes les activités humaines sont épinglées comme futiles, d'une certaine manière. Hein. Antonio de Pereda. Juan Bautista Martinez del Mazo, ça c'est un autre peintre de cette période. Qu'est-ce qu'il nous représente ici ?
L'enfant.
Un enfant, effectivement. Hein. Un enfant. Ça nous rappelle quoi ? Ça nous rappelle Velázquez. Ça peut nous rappeler d'autant plus que Martinez del Mazo était le gendre de Velázquez. Ça crée des liens. Hein. Donc on a là effectivement un enfant. Qu'est-ce qui vous rappelle Velázquez, par exemple, dans un portrait tel que celui-là ?
Les vêtements,
oui. Ouais. Le visage, le paysage. On a vu en effet, vous rappelez, on a même vu la fois dernière comment Velázquez passait de portraits très, très, très fermés hein, à des portraits beaucoup plus ouverts sur des paysages plus tard. Vous vous souvenez, on avait bien remarqué ça. Hein. Voilà.
Et puis l'absence de sourire.
Oui, il y a effectivement un côté un peu austère, vous avez raison. Hein. C'est-à-dire qu'il y a effectivement, on l'avait remarqué aussi chez Velázquez, hein, un côté très comme ça, très sérieux, enfin, sorte de noblesse qui ne passe pas par une tranche rigolade, pourrait-on dire. Hein. Absolument, c'est également un élément qu'on peut voir. Hein.
Il tient quoi exactement ?
À votre avis ?
On dirait qu'il alors, ça paraît pas tranchant.
Non, c'est. Ben, c'est-à-dire que. Je ne sais pas. Parce que voilà, on voit une espèce de fourreau là. En même temps, on ne voit absolument pas ni de garde, ni de côté pointu. Je me demande si ce n'est pas plutôt l'équivalent d'une sorte. Bon, c'est un enfant en même temps. Hein. Alors, soit c'est une sorte de simulacre, c'est une sorte de fausse épée, si vous voulez. Mais ça m'étonnerait. Soit c'est plutôt une sorte de bâton de commandement. Vous savez, les grands personnages ont parfois des non pas des sceptres, mais des. Oui, ben, en fait, c'est ce qui tient le fourreau. Hein. Ce que vous voyez là, c'est la... Comment ça s'appelle ? Voilà, l'espèce de baudrier qui tient le fourreau dans lequel il... qui est là, hein, dans lequel il va remettre sa baguette.
Moi, j'y verrais plutôt une sorte de, entre guillemets, baguette de commandement. Mais je dis sous toute réserve. Hein. Il y a un bout en ivoire, là-haut, visiblement. Ça semble une baguette de chef d'orchestre, en fait. Hein. Mais ça n'en est pas une.
Mais c'est donc Balthazar Carlos.
Pardon ?
C'est donc Balthazar Carlos. Ils étaient amenés à avoir un commandement plus tard.
Voilà, ben c'est ça. C'est un enfant, donc. Hein.
C'est Jean.
Alors, un tableau de Alonso Cano qui représente
Saint-Jean.
Et vous savez à quoi vous reconnaissez, on l'a vu.
Le calice.
Voilà, le petit serpent qui sort du calice. Hein.
Oui, il y a trois serpents.
Oui, là, il y en a plus. Alors, en fait, c'est un serpent avec deux petites ailes. C'est très souvent le cas. Hein. Souvent, c'est le petit serpent de Saint-Jean, des petites ailes. Qu'est-ce qui vous frappe dans cette représentation de Saint-Jean, l'évangéliste hein. Alors, il y a effectivement un côté très clair-obscur qui, d'ailleurs, nous étonnera pas forcément. Pourquoi, d'ailleurs ? Pardon ? Oui, c'est l'époque. Hein, chez Velázquez, on a vu des choses un peu équivalentes. Hein, voilà.
Mais il a un geste curieux. Comme
il a une auréole.
Il a une auréole, ça c'est normal pour un saint. Hein.
Elle est grande. Hein.
Oui, une grande auréole. Elle est plate, d'ailleurs. Hein. Elle n'est pas derrière, elle est dessus.
C'est le geste curieux.
Un geste d'étonnement.
Il est effrayé avec.
C'est vrai, il peut l'être d'ailleurs. Moi, j'aimerais pas trop avoir un monstre dans mon calice. Il y a de quoi être un peu. C'est quelque chose qui tient, en ligne de l'étonnement, mais peut-être d'autres choses aussi. Il y a peut-être quelque chose qui me frappe dans cette figure-là.
Il est ni assis ni debout.
Oui.
Non, moi je crois qu'au contraire, c'est ce qu'il va faire. Hein.
Oui, moi je pense aussi. Oui.
Il va, pardon.
Ah, ça je pense pas. Le serpent, encore une fois, est plus une sorte d'évocation symbolique du poison. Parce que vous savez que normalement, c'est du poison qu'il y a là-dedans. Hein. Voilà. Mais évidemment, du poison, comment le représenter hein. Vous avez beau faire un liquide un peu verdâtre, on va vous dire que c'est de la menthe à l'eau. Enfin voilà, c'est pas évident. Hein. Donc pour évoquer le poison, symboliquement, on le représente par un petit monstre, quelquefois ailé, qui sort. Voilà. Une sorte de serpent ailé, si vous voulez. Hein. Donc c'est symbolique. Si vous voulez, il ne va pas boire le serpent.
Hein.
Il sait qu'il va en venir à bout, et encore une fois, le serpent est là pour nous montrer à nous, qui au monde ne comprenons rien, que c'est du poison. Et donc c'est mauvais comme un serpent. Et lui-même sécrète du poison, d'accord ?
Cannabis.
Voilà, par exemple. Je crois qu'il est à la fois surpris, mais en même temps sûr de lui, c'est Saint-Jean. Hein. Il sait de toute façon s'il boit le poison, il ne mourra pas. Donc voilà, hein. C'est Saint-Jean, hein. Pas monsieur tout le monde. Hein. Mais dans la manière dont le personnage est représenté, il y a peut-être quelque chose à dire aussi.
Sa position ?
Je ne dirais pas forcément dans sa position, dans la manière dont c'est conçu, la façon dont le peintre a envisagé de représenter le personnage.
Il y a l'éclat du vêtement.
Oui, il y a un vêtement effectivement éclatant. Hein. Oui, on pourrait dire que c'est assez ramassé, oui.
Je crois que c'était le Christ.
Alors, on aurait pu croire que c'était le Christ, mais ça nous permet de dire que c'est Saint-Jean, il y a sans aucun problème. Oui. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a un côté, on pourrait croire qu'il est christique. C'est vrai. D'ailleurs, il y a une chose qui, justement, irait dans votre sens.
La barbe.
La barbe. Hein. Très souvent, Saint-Jean, il est imberbe. Hein. Saint-Jean, c'est l'apôtre jeune. En général, il n'a pas de barbe. Hein. Quelquefois, on en a déjà vu des exemples. Hein. Ce n'est pas très fréquent. Là, il en a une. Et c'est ce qui fait que, quelque part, il y a une sorte de, comment dire, de manière de décalquer le Christ sur l'image de Saint-Jean. Hein. Ça, ce n'est pas faux.
C'est le drapé de...
Oui. Alors, il y a ce drapé, une espèce de drapé assez ample, très éclatant, effectivement. Hein.
C'est une sculpture, en fait.
Voilà, il y a un côté, effectivement, très sculptural. Hein. C'est d'autant plus intéressant ce que vous dites qu'Alonso Cano, en même temps, était sculpteur. Hein. Ça, c'est le cas de pas mal de ses peintres. C'est une chose très singulière à l'Espagne. Ça, hein. Beaucoup de ses peintres sont en même temps sculpteurs. Hein. Et c'est le cas dans son cas. Dans Alonso Cano, il est peintre et il est sculpteur. Et cette espèce de conception très monumentale, vous voyez, c'est pas un tableau où il y a Saint-Jean dans un coin avec son truc. Hein. Non, il y a le tableau et paf. Voilà, il prend toute la place. Hein, ce que vous disiez, il y a un côté comme ça, resserré, vraiment. Il est cadré dans le tableau. C'est pas un tableau et puis la moitié inférieure, il y a Saint-Jean. Non, il n'y a que Saint-Jean. Vous ne pouvez pas le rater. Hein. C'est vraiment Saint-Jean. Quoi. Saint-Jean, Saint-Jean. Hein. eh bien, cette dimension très sculpturale, très monumentale, est d'autant plus évidente hein, qu'il est sculpteur, Alonso Cano aussi. Puis il y a aussi quand même une très grande élégance là-dedans. Hein. C'est, bon, la façon, vous l'avez d'ailleurs noté, hein, dont il a un geste, il est assis, mais en étant debout, une sorte de mouvement. En tout cas, une sorte de délicatesse, d'élégance, si vous voulez, il n'est pas là, pouf, avec son truc, quoi. Hein. Espèce de manière de concevoir ce côté ni Bouddhiste, ni Kibouza, une sorte de grande élégance de la pose qui est, là aussi, une des choses très, très importantes chez lui.
Et pourquoi il a du poison ?
Alors, je vous redis en deux secondes hein, l'événement. Saint Jean était à Éphèse. Il discutait, si vous voulez, avec le grand prêtre du grand temple d'Artémis d'Éphèse, hein, qui était d'ailleurs une des merveilles du monde, et le grand prêtre a voulu le mettre à l'épreuve, et pour ce faire, lui a fait boire une coupe de poison à lui et puis à deux autres personnes. Les deux autres personnes avec qui il était sont mortes, Saint Jean lui a bu le poison, n'est pas mort, et en plus il a ressuscité les deux autres personnes qui venaient de boire le poison. Hein. Et ce qui fait que, bah, évidemment, la foule autour s'est convertie, y compris le grand prêtre du temple. Voilà. C'est donc un des miracles de Saint Jean. C'est pour ça qu'il est toujours représenté avec cette coupe dans laquelle il y a du poison. Mais encore une fois, puisque le poison, c'est jamais que de l'eau, entre guillemets, un liquide, hein, pour vraiment qu'on reconnaisse le poison, c'est généralement un petit serpent qui est représenté à la place. Alors, ceci. Un paysage, effectivement. Francisco Coyante, c'est un paysage sans champêtre, ok.
Il y a des personnages.
C'est donc un paysage champêtre avec des personnages. Des bergers. Des bergers. Un berger. Ça n'a pas l'air d'être. C'est pas forcément un berger. Un ermite. Oui, on a l'impression que... Ouais.
Il a une grande barbe blanche.
Oui, il a une barbe blanche, un personnage docte. Hein.
Des lunettes.
Des lunettes ? Bon, je ne suis pas sûr. La photo déforme peut-être. Hein. Alors, il y a effectivement un chien. Il est là. Hein.
Il y a quelqu'un qui vient le voir. Non ?
Pardon ?
Il y a quelqu'un qui vient voir ce personnage, cet ermite.
C'est lui, alors. Donc, le berger viendrait voir l'ermite. Il a l'air étonné. Il est vraiment très étonné. Oh, il a les deux mains comme ça. Il est étonné parce qu'il y a l'ermite qui débarque. C'est un ermite ? C'est une apparition. Cette apparition a lieu dans quoi ?
Dans une forêt.
Dans un buisson. Ardent. C'est Moïse. Ce que vous avez là, c'est l'épisode Buisson Ardent, sauf qu'au lieu de voir la Vierge, il voit Dieu. C'est la même famille. Hein. En fait, ce que vous avez là, dans cette œuvre de Francisco Coyantes, c'est donc l'épisode de Moïse et le Buisson Ardent. Hein. Autrement dit, qu'est-ce qui sort de cette œuvre ? Vous avez dit d'abord, c'est un paysage, c'est-à-dire, ah, bah tiens, il y a un berger. Ah, tiens, puis c'est Moïse et le Buisson Ardent.
Le paysage prend toute la place.
Voilà, le paysage prend vraiment toute la place et la scène n'est qu'un élément, si vous voulez, à l'intérieur de ça. Hein. En gros, elle est un peu le prétexte à représenter un paysage. Hein. Limite, il n'aurait pas présenté ça, il aurait fait son paysage quand même.
Hein.
C'est très foncé. Ah oui, c'est foncé, hein, effectivement. Hein. Ah bon, on est quand même dans l'Espagne du 17e, hein, voilà.
La première partie, parce qu'au fond...
Oui, le fond est plus ouvert, plus lumineux.
Dans l'espace éclairé, là, ça a l'air d'avoir quatre pattes, mais c'est curieux.
Ça, je crois qu'il y a deux personnages ici. Il y a deux personnages représentés. Deux personnages là-bas dans le lointain.
Et au bout, c'est un village où ça vend une tour.
Oh oui, on voit visiblement un village, des habitations. Hein. Donc un grand paysage de Francisco Coyantes... mais qui est effectivement le prétexte à la présentation d'une scène biblique. Zurbaran, Zurbaran. Sainte Agathe. Pourquoi Sainte Agathe ? Voilà. Hein, on lui a coupé les seins, elle porte donc les seins sur un plateau. Hein. Alors là aussi, qu'est-ce que vous auriez à dire de cette représentation ? Il y a mille manières de présenter Sainte Agathe. Qu'est-ce qu'on pourrait dire là ?
L'éclat des vêtements.
L'éclat des vêtements. Les couleurs. Le personnage qui prend tout l'espace. On a déjà vu ça chez Cano. Alors, sur Baron, lui, il est peintre. Hein. Ouais. Mais enfin, effectivement, c'est une manière. Hein, vous imposez un personnage, hein, ça.
Oh, mais il en fait d'autres aussi, aussi imposants. Il y a Saint-François.
Absolument. Oui, beaucoup de saints, effectivement. Saints dans les deux sens du terme, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce que... Alors, donc, vous avez insisté sur le côté, une espèce de figure un peu monumentale qui s'impose, hein, qui est toute seule, là, devant nous. Vous avez insisté sur le fait qu'il s'agissait de Saint-Agathe. Vous avez précisé le fait qu'il y avait des vêtements très colorés, très présents, etc. Peut-être une dernière chose, quand même, qui fait vraiment que ce personnage s'impose.
Elle ne souffre pas.
C'est vrai qu'elle a pas, elle a l'air assez sereine. Hein. On lui a coupé les seins. Bon, ma foi, ça a l'air d'aller. C'est une sainte. Hein. Chez les saintes, il n'y a pas de problème. Hein. Voilà. Donc, c'est une sainte. Et puis, quelle. Pardon ?
Elle nous regarde.
Elle nous regarde. Hein. Elle nous prend témoin, effectivement. Hein. Tiens, elle est sereine et en même temps, elle nous regarde. Ce n'est pas une chose extérieure. Hein. On est pris par le sujet, absolument.
Elle est fière.
Oui, il y a une sorte de fierté. Hein. Elle exhibe les seins qu'on lui a coupés comme une sorte de trophée, hein. Mais avec comme une sérénité, mais aussi une sorte de modestie. Enfin, il y a une fierté modeste, pourrait-on dire, bizarrement. Hein.
Ouais.
Certainement. Je crois que c'est déjà le cas, d'ailleurs.
Hein. La peau n'est pas figée.
Là, oui, il y a une espèce de mouvement assez doux, mais effectivement... Et puis, quel est un des artifices que le peintre a trouvé pour mettre en avant cette figure ? Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que le fond est très sombre, hein, et la figure... Mais ça, on a vu que c'était un artifice qui était fréquent à l'époque. Hein. On l'a vu chez d'autres, le revoilà, chez Zurbaran, mais on l'avait remarqué chez Velázquez, rappelez-vous, par exemple. Hein. Voilà. Une autre œuvre du même Zurbaran, ou Zurbaran, si vous préférez. Ah là, il y a des pigeons, ou deux colombes, je
pense. La couronne d'épines,
elles sont de la couture.
Non, la couronne d'épines,
c'est Jésus qui prépare sa couronne.
Alors, avant de commencer par les détails, montrez peut-être les choses les plus importantes, parce que vous avez dit, il y a une couronne d'épines et il y a des pigeons, ok ? Il y a peut-être des choses qui se voient avant.
C'est Jésus qui a la couronne d'épines et qui s'est piqué.
Alors... voilà, alors oui, pardon.
On est dans un intérieur.
On est dans un intérieur. Il y a deux personnages. Ah, voilà. On met les choses dans l'ordre, absolument. Hein. Méthode. Hein. Vous savez que la méthode, ça fait partie de nos obligations du
Il y a des anges là-haut.
La Vierge,
ils sont
enfants.
Alors, on voit des petits anges là. Et ces deux personnages. Ils font de la couture. Visiblement, il y a Marie à droite, oui.
Et son fils,
le Christ à gauche. Voilà, exactement. C'est-à-dire qu'elle, elle fait de la couture. On utilise quoi dans la couture ?
Des aiguilles.
Et là, on a le Christ, qui n'est que Jésus encore d'ailleurs, hein, et qui s'amuse à faire une petite couronne d'épines, et qui vient de se piquer le dos. Et effectivement, vous disiez qu'il y a une sorte de prémonition qui est montrée. Alors, par le fait que le Christ se pique avec la couronne qui va le piquer plus tard. Hein. Mais il y a autre chose qui montre cette prémonition.
C'est le suaire, non ? Le tissu blanc ?
Alors oui, il y a effectivement ça qui fait déjà penser quelque part au suaire. Hein.
Et puis le visage de
Marie. Et le visage de Marie, parce qu'elle regarde d'un air... voilà, un peu embêté, quoi. Enfin, ce qui se passe du côté de son fils. Effectivement, il y a une prémonition. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce tableau qui, en effet, montre à l'arrière trois chérubins, n'est-ce pas, qui apparaissent ? Au-dessus. Pardon ? Oui, là-bas, il y a une sorte d'ouverture sur l'extérieur.
Il y a la pureté des lys.
Il y a les lys, avec, effectivement, l'idée de la pureté du côté de la Vierge, tout ça fonctionne très bien. Il y a des lys et puis...
Un œillet.
C'est des roses. Avec des épines, toujours. Hein. Vous savez que la rose, c'est affaire de la Vierge, Marie, parce qu'elle a des épines. Et les épines, c'est le Christ. Hein. C'est pour ça que la rose est l'affaire de la Vierge. Hein. C'est la fleur mariale, la Vierge, la rose.
On dirait qu'elle réfléchit.
Elle réfléchit, puis surtout, elle regarde bien embêtée ce qui se passe du côté de son fils. Pardon ? Ouais. Qu'est-ce qui vient encore accompagner cette scène ? C'est-à-dire qu'on a deux personnages, on a les deux oiseaux, quelques chérubins, une ouverture, une gloire. Pardon ? Il y a beaucoup d'objets. Hein, beaucoup d'objets. Hein. beaucoup, beaucoup, beaucoup d'objets. Ça nous rappelle quoi, d'ailleurs ?
C'est encore une nature morte.
Pardon ? Encore une nature morte, hein ? Comment s'appelle le peintre de nature morte dont on a parlé tout à l'heure ? Sanchez Cotán. Hein ? Sanchez Cotán, hein ? Sanchez Cotán, on a vu, n'est-ce pas, ce peintre de nature morte tout à l'heure, spécialisé dans la nature morte. Maintenant, on voit chez Zubarán, hein, on voit toute une série d'éléments comme ça de la nature morte qui sont présents et qui ont vraiment un rôle très très important dans, le, dans la, la composition. Hein. Donc c'est un très très beau tableau, enfin je trouve, de Zubarán, de Zubarán. Hein. Voilà, le Christ et la Vierge à Nazareth, c'est le nom de, c'est le titre de ce tableau. Hein, c'est pas beau ça.
Ah, oui, mais
ah, Zubarán. Ah, oui, dira ce qu'on voudra, mais
c'est la victime.
Ouais. Parce qu'en fait, c'est quoi ça ? Voilà, c'est l'agneau Dei, hein. C'est l'agneau de Dieu, c'est l'agneau pascal, c'est voilà, hein. C'est le Christ.
Voilà.
Ah oui, c'est un, ouais. Ah oui, c'est un, vraiment. Alors finalement, c'est, à quel genre appartient ce tableau-là ? C'est une sorte de nature morte. Alors, il n'est pas mort, hein, en tout cas pas encore, le pauvre. Mais c'est quelque part une nature morte. Hein, absolument. Donc vous voyez, on l'a vu dans le tableau précédent, vous avez bien insisté sur la présence d'objets et vu à quel point c'était important. Ben, on voit que Zubarán est capable aussi de faire des natures mortes plein pot, quoi. Hein. Très très beau tableau. En tout cas, quel que soit le saint, qu'est-ce qui frappe ici ? Voilà. C'est-à-dire que là, alors clair-obscur, là c'est hein, vraiment très 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 puissant. Hein. Donc un très obscur, un très clair-obscur, on va dire. Hein. Voilà. Voilà, là aussi, il tient toute la place. C'est vraiment dans le tableau, on a déjà vu ça chez Zubarán tout à l'heure, on a vu ça chez d'autres comme Alonso Cano aussi. C'est vraiment, le personnage tient toute la place. Hein. Puis pour ne pas nous dissuader de regarder ailleurs, le fond... Voilà, neutre. Hein. Fond sombre, on voit rien. C'est-à-dire, si on ne voit pas le sein, on ne voit rien. Hein. Pourtant, il est en partie caché par ce cœur obscur, mais qui rend visible quelques éléments quand même.
Un crâne.
Voilà.
C'est Saint-Jérôme.
François. En méditation. Hein. Bon, ça pourrait être plus. Oh, ça pourrait être. Il y a d'autres. Effectivement, Jérôme aurait pu être présenté comme ça. Souvent, il est présenté un peu autrement, plus dénudé, quelquefois, mais en cardinal, etc. Il y a plusieurs solutions. Là, il se trouve que c'est Saint François.
Pourquoi le crâne,
voilà, c'est l'idée de la vanité. C'est une manière de réfléchir. Marie-Madeleine est souvent présentée avec un crâne aussi, hein, sur la vanité de la vie, quoi, la vanité des choses, la vanité du monde, etc. C'est à l'importance du ciel.
Et la capuche et la tête, le nez qui sort, c'est extraordinaire.
Ah bah oui, c'est-à-dire qu'on voit, on voit rien du visage, sinon le nez et la lèvre. Hein. Donc c'est un tableau d'une force étonnante. Hein. Ribera. Un autoportrait ?
Il montre
quelque chose.
C'est pas un marrant.
C'est pas un marrant.
Non.
Alors, donc, il montre effectivement un ouvrage, il montre quelque chose.
Et puis il a un truc dans la main. Là.
Il a, bah oui, un papier dans la main. Bon, il a des bouquins autour de lui. Avec quel moyen Ribera nous montre ce personnage ?
Un
clair obscur, comme d'habitude.
Un fond neutre. Le personnage qui
prend toute la place, on ne peut pas le rater. Il n'y a pas d'outil qui dit oui, à droite à gauche. C'est le bonhomme, et puis voilà. Hein, voilà. Donc, une sorte d'intensité de la représentation. Hein.
Mais un visage très marqué. En
fait. Un visage très marqué, hein. Très réaliste. Hein. Très, très réaliste. Pardon ? Un visage très réaliste. Hein. Il y a les rides, enfin tout y est. Quoi, hein.
Mais alors, il est très jeune.
Il n'est pas très jeune. C'est quel genre de personnage, à votre avis ?
Un conquérant.
Oui, peut-être.
Un conquérant, un grand navigateur, peut-être, hein, qui montre quelques maps mondes, enfin, c'est un plat, mais bon. Hein. Des cartes, peut-être. Un Christophe Colomb.
Non.
Non. Alors, quel genre de personnage, si c'est pas ça? Pardon? Un architecte avec ses plans, là. Peut-être. Un Galilée quelconque? Alors, Galilée, c'est pas un architecte. Ce serait quoi, alors?
Un scientifique.
Un scientifique? Un érudit. Un érudit. Hein, peut-être un érudit. C'est même plutôt de ce côté-là qu'il faut aller. C'est même un type spécial d'érudit.
Scientifique.
Alors, oui, quelque chose qui contient un peu toutes ces disciplines. Plutôt un philosophe. Hein. C'est-à-dire que Ribera a représenté toute une série comme ça de figures, plus ou moins des philosophes, hein, souvent ici de l'Antiquité. On a Platon, on a enfin, tout le monde, hein, et Aristote, enfin voilà. Hein, il les a représentés comme ça. C'est-à-dire, non pas en montrant une espèce de personnage un peu éthéré à la grecque, vous voyez, marmoréen, etc., mais des personnages qui ont l'air de monsieur tout le monde que vous trouvez dans la rue. Hein. Les philosophes, c'est pas je ne sais qui, c'est vous. C'est vous, c'est chacun. Hein. Donc une espèce de dimension absolument quotidienne. Là, c'est le philosophe Cratès. Hein. Hein. Voilà, philosophe grec. Et donc, je crois qu'il y a un dialogue de Platon qui s'appelle le Cratès, si je m'abuse. Enfin voilà, et donc c'est une de ces nombreuses figures de philosophes de Ribera. Hein. Figure exemplaire, mais représentée d'une manière qui justement ne l'est pas du tout, d'une certaine façon. Hein. Toujours Ribera.
Ah,
le Christ au jardin des Oliviers. Ouais. C'est pas trop un olivier.
Au jardin des Oliviers, le Christ ne dort pas.
Et puis il dort pas. Les apôtres dorment, les trois qui l'accompagnent. Alors c'est un des apôtres qui accompagne le Christ au jardin des Oliviers. Mais il faudrait les deux autres.
Il a l'air de dormir profondément. Mais il a des sandales.
Oui, il a des petites sandales. Donc un personnage endormi, oui. Ah, il y a qu'un petit quelque chose qui se passe, moi je trouve quand même. Lumière. Il y a une lumière.
Ah, alors c'est un songe.
C'est le songe de Jacob. On est au départ du songe de Jacob. Il est là, il est couché. Une nuée va apparaître et bientôt l'échelle avec les anges. Vous savez, les anges qui montent et descendent jusqu'au paradis va apparaître, certainement. Hein. Voilà, et pas encore l'échelle. Hein. Ce serait trop facile. C'est le songe de Jacob. Donc, cette manière de représenter le songe de Jacob, qu'est-ce qui vous étonne? Un peu finalement comme dans le tableau précédent, c'est quoi? Voilà, c'est très naturaliste. C'est-à-dire que Jacob, c'est quand même pas n'importe qui. Si vous voulez, tout comme Cratès, ce n'est pas n'importe qui. Il est représenté comme n'importe quel berger. Vous voyez? Ça vous rappelle quoi, ça? Et qui? Pardon? Alors, le Gréco ou bien Velasquez, hein, voilà. C'est-à-dire qu'on a déjà vu ça, cette façon de représenter des gens très importants d'une manière très réaliste, quotidienne, un peu pauvre même. Hein. C'est le cas, par exemple, de Cratès, qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Donc, le songe de Jacob.
Encore lui.
Oui, hein.
Alors, ça,
oui, absolument. Il y a un grand contraste entre les couleurs, la blancheur, c'est du premier plan, et puis dans le fond. Hein. Finalement, le fond rappelle quoi? Le fond rappelle quoi? Pardon? Oui, l'éclair obscur qu'on a vu tout à l'heure, ça rappelle, à vrai dire, ça rappelle les tableaux qu'on a vus avant. Hein. Vous me coupez ça, vous le mettez sur une toile, je vous dis que c'est un philosophe, comme Cratès. Ok ? Or, c'est qui, là ? C'est Joseph. Hein. Donc, si vous voulez, Joseph, il est présenté comme Cratès, quoi. Hein. C'est un bonhomme avec des rides, une barbe mal taillée. Enfin, c'est comme le Cratès de tout à l'heure. Hein. Et la dame que vous avez là, vous me la découpez, moi, et vous me mettez dans un tableau, je vous dis que c'est une Sibylle, parce qu'après tout, il représente des philosophes comme des clochards. Ben, les Sibylles aussi, vous voyez ce que les... Alors là, c'est Sainte-Anne, on est d'accord, hein, puisque c'est à la Sainte Famille. Hein. OK. Bien. Donc, l'arrière... C'est exactement comme dans les tableaux qu'on a vus avant. Voilà. C'est la même chose. Hein.
Oui, mais...
C'est devant que ça change un peu.
Devant,
hein. Mais dans la deuxième partie de sa carrière, Ribera va faire ça. Il va, si vous voulez, éclaircir un peu sa palette. Tout simplement parce que Ribera, je ne sais pas si vous le savez, il est espagnol. Hein. Il est né à Jativa. Et il se trouve que très jeune, il avait une seizaine d'années, il est allé à Naples, en Italie. Et il va d'ailleurs y passer tout le reste de sa carrière. Il va d'ailleurs y mourir. Tiens, pourquoi j'ai marqué Valence ? J'ai dû, pardonnez-moi, là, il doit y avoir une erreur de ma part. C'est normalement, c'est Naples, hein, je crois. À moins qu'il soit revenu à Valence, mais je vous dirai la prochaine fois. Je me demande si je n'ai pas fait une erreur d'ordinateur. Mais enfin, bref, il a passé en tout cas une énorme partie de sa vie à Naples. Et si vous voulez, le lien, le regard, la proximité de la peinture italienne, notamment de Gênes, et de la peinture italienne en général, font qu'il va... intégrer de plus en plus de couleurs à sa peinture. Hein. Alors ça n'empêche pas qu'il garde ce côté réaliste, son art, mais enfin il va un peu modifier sa palette. Ça représente quoi ? La Sainte Famille, d'accord ?
Oui, mais il y a...
Alors il y a Joseph, il y a... Il y a... Il y a...
Et alors ?
Jean-Baptiste, mais...
Sainte-Catherine. Parce que c'est quel épisode, ça ?
C'est
le mariage mystique de Sainte-Catherine. Hein. Il est dit, en effet, que Sainte-Catherine se marie mystiquement avec le Christ. Eh bien, c'est la scène qui disait présenter le mariage mystique de Sainte-Catherine. Hein. Voilà. OK ? Illustrissime tableau, hein. Voilà. Un tableau de Murillo. Murillo, on a vu de quoi de lui déjà ? La cuisine des anges, hein, la cocina de Los Angeles tout à l'heure. Hein. Voilà. Donc Murillo, ça représente quoi ?
Un mendiant.
Ça vous rappelle des choses ? En clair-obscur. Qu'est-ce qu'on pourrait dire encore ? Allez, déballez votre sac. Clair-obscur. Réalisme.
Là, par contre, il n'y a pas que le personnage, il y a des objets.
Ah oui, il y a quelques objets. Réalisme jusqu'au pied sale. Hein. Ouais. Là aussi, oui, il y a des bouts de crevettes un peu là. Il est en train de bouffer, quoi. Ce qu'il peut, ce qu'il a récupéré dans je ne sais quelle poubelle. Hein.
Il est dedans, parce que s'il était dehors, il n'y aurait pas la lumière.
Ouais, il est dans un genre de soupente.
La lumière rentre.
Ouais.
La lumière,
ça brille.
Ça nous rappelle des choses ? À part les téléphones ? Qu'est-ce que ça nous rappelle ? Si on regarde, si on creuse un peu le XVIIe siècle espagnol, si on regarde du côté de Velázquez, par exemple, eh bien, alors au début, on a vu des choses comme ça, effectivement. Puis un petit peu plus qu'au début, après. Des tableaux qui verront disent un peu la même chose. Ça, c'est quoi ? C'est un mendiant. On représente les mendiants ? Bon, non. On ne présente pas des mendiants. On présente la Vierge, le Christ, un philosophe, un personnage dans le Seigneur. Là, c'est un gosse du peuple. Ça ne se fait pas, je veux dire. Hein. On ne représente... Ben là, si. Hein. Pardon ? Ben, alors voilà, comme les buveurs qu'on a vus effectivement, puis qu'est-ce qu'on a vu chez Velázquez ? On a vu en effet des buveurs, vous vous rappelez, hein, tout à fait au départ. Qu'est-ce qu'on avait vu aussi chez Velázquez ? Ces personnages qu'on ne représente pas normalement, et que lui représentait. Pardon ? Eh ben les nains ! Les nains, vous connaissez des quantités d'artistes qui ont représenté des nains ou des mendiants ? Eh ben pas beaucoup. Ça, c'est l'Espagne du XVIIe siècle. Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on donne... Là, vous ne l'avez pas dit, hein, mais là, c'est comme les autres, c'est-à-dire c'est... Sur la toile, il y a ce gosse. On ne peut pas passer à côté. Il n'y a pas un grand paysage avec des tas d'arbres, des animaux, des bus, et puis un homme dans un coin. Non, il y a le mendiant. Et pour le voir encore mieux, il est complètement éclairé. Vous ne pouvez pas passer à côté. Hein. Il y a vraiment, c'est le mendiant qui est représenté. On lui offre toute la toile. Hein. Voilà. Tout comme Velázquez présentait des nains, et on ne pouvait pas passer à côté non plus. C'est quoi le but ?
De réalisme.
Oui, ça c'est un moyen de réalisme. Hein. On utilise le réalisme, mais pour aller vers quoi ? Pour dire quoi ? Et ben voilà, c'est ça. Ben voilà, c'est-à-dire que finalement, rappelez-vous Velázquez, qui représentait des princes, mais avec une sorte d'austérité un peu noirâtre, qui était la même que pour les nains. Tout le monde est pareil. Et ben c'est la même chose. C'est-à-dire que Murillo, il représente un mendiant, mais j'allais dire comme il représenterait une tête couronnée. Chacun pareil. C'est pareil. Il y a une espèce de manière de représenter la dignité humaine, quelle qu'elle soit. On peut bouffer des bouts de crevettes pourries ou être dans des intérieurs sucrés avec des objets en or. On est pareil. Hein. On les représente de la même manière. Hein. Les héros, ce n'est pas uniquement les gens de la haute, si vous voulez. C'est ça l'idée. Hein. Chez Murillo, il y a ça. Et pas que chez Murillo, on l'a vu aussi chez Velázquez, effectivement. Hein. Donc le fameux mendiant de Murillo. Ça, toujours de Murillo ?
Marqué, oui.
Oui, mais c'est quoi ?
Une famille. Une famille avec la Sainte Famille.
Eh ben voilà, c'est la Sainte Famille. C'est pas une famille lambda, hein. C'est la Sainte Famille. Pardon ? Voilà. C'est-à-dire qu'on représente là la Sainte Famille comme monsieur et madame tout le monde. Hein. La Sainte Famille avec un chien, d'ailleurs. On appelle la Sainte Famille au chien, généralement. Voilà. Donc c'est une Sainte Famille, mais qui est représentée comme une scène de genre. C'est pas une scène de genre, c'est une Sainte Famille. OK ? Je vais un petit peu plus vite, parce qu'avec ce problème qu'on a eu tout à l'heure, on n'est pas très en avance. Encore Murillo. Simplement, qu'est-ce que vous avez à dire par rapport à cette œuvre-là ? Alors oui, au niveau de... Alors, ça représente quoi ? C'est l'Annonciation, donc il y a l'ange, il y a Marie, il y a Saint-Esprit, il y a des anges, pas de problème. Hein. Mais au niveau de la manière dont c'est représenté, qu'est-ce que vous auriez à dire là ? Beaucoup plus coloré, beaucoup plus chargé. Rappelez-vous le mendiant de tout à l'heure, ou la Sainte Famille que je viens de vous montrer, hein, où il y avait le père, la mère, le chien, le gosse, point. Là... Voilà, il y a quelque chose de vraiment très italianisant. C'est-à-dire que là, on arrive vers vraiment d'avoir une explosion de couleurs. On n'est plus non plus dans ce clair-obscur qu'on avait dans le tableau précédent. Vous voulez que je vous remonte le tableau précédent ? C'est pas pareil, hein ? Donc on est vraiment dans une toute autre réalisation. Parce que dans ce tableau qui est plus tardif, Murillo travaille sans doute effectivement d'une manière plus italienne, avec du monde, du mouvement, de la couleur. Bref, il y a une évolution, si vous voulez, dans l'œuvre de Murillo. Puis qu'est-ce qu'on pourrait dire également ? Est-ce que, encore, penser au mendiant que je montrais il y a un instant, quelle serait peut-être la différence entre le mendiant qu'on vient de voir, avec ses crevettes pourries au premier plan, et ça ?
Il y a moins de réalisme.
Beaucoup moins de réalisme.
Oui,
le Saint-Esprit est vraiment mis sur le Saint-Esprit. Oui, le colon est très éclairé. Oui, vous disiez, pardon ? Pardon ?
Oui, ça fait plus traditionnel.
Oui, sauf qu'on est quand même au XVIIe siècle. Hein. Aujourd'hui, ça me paraît traditionnel parce qu'il y a eu des choses depuis. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Donc, au XVIIe siècle, ça n'était peut-être pas autant. Même si c'est plus dans... Peut-être quand même, effectivement, dans la tradition d'une peinture italienne, c'est déjà fait avant, oui.
C'est un genre qu'on a vu énormément il y a 50 ans et plus sur des images... de communion.
Oui, absolument, c'est un côté très image de communion, il y a un côté un peu douceâtre. Hein, regardez comme c'est élégant, cet ange qui est charmant, c'est une vierge, tout à fait sympa. Enfin, voilà, on est dans une espèce de côté doucereux. Effectivement, c'est parfait pour les images de communion ou pour les boîtes de chocolat. Hein, c'est parfait. Hein. C'est ce qu'il faut, si vous voulez. C'est doux, c'est beau, c'est joli, ils ont des petits ventres, tout va bien, n'est-ce pas ? C'est pas la Sainte Famille qu'on vient de voir avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Vous la voyez, la différence, hein ? On n'est pas là dans une sorte d'âpreté clair-obscur, hein, avec des crevettes pourries par terre. On est là, elle vient d'abandonner son ouvrage, n'est-ce pas ? On est là dans une espèce de joliesse harmonieuse, de sérénité vaporeuse, qui vraiment nous amène vers autre chose. Hein. On n'est pas dans l'âpreté d'un caboulot à Séville. Hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc il y a vraiment une évolution dans le travail de Murillo.
le jeune, alors.
Oui, mais... Herrera le jeune. Vous rappelez, on a vu Herrera le vieux tout à l'heure. Hein, vous vous rappelez du tableau d'Herrera le vieux, représentait quoi? Il représentait quoi? Ouais, la guérison de Saint Bonaventure par Saint François. Vous vous rappelez? C'est pareil? Complètement différent. Qu'est-ce que vous voyez là de différent par rapport au tableau de son père? Du mouvement. Il n'y en avait vraiment pas dans le tableau du père. Hein. On avait un bloc, boum, de tête les uns à côté des autres. Hein. Quoi d'autre?
Le fond très clair,
hein, alors que le tableau du père était assez plombé. Hein.
L'aspiration.
Une histoire d'aspiration, c'est pas ça monte. Hein.
Très dynamique.
Très dynamique, du mouvement. Hein. Exactement l'opposé du tableau du père. Hein. Pardon? Oui. Voilà, c'est ça. On est dans quelque chose qui annonce déjà le baroque. Il y a des quantités de poutis partout, ça monte vers le ciel, n'est-ce pas? Il y a du mouvement. Alors, le sujet, il ne se devine pas, c'est le triomphe, l'apothéose d'un saint pas très connu qui est saint, moi je ne le connaissais pas, Herménégilde. Bon, voilà. C'est donc un saint. Hein. Et donc, il est en train, vous voyez, de monter au ciel. Donc, il y a effectivement un côté baroque, un tourbillon, n'est-ce pas, qui nous amène très très loin de ce que nous avons vu chez le père. Juan Valdés Leal. Ouais.
On retombe à l'arrière.
Alors, oui, d'une certaine manière, oui, ça vous rappelle quoi, ça? Oui, on a vu un peintre, il nous a fait une vanité tout à l'heure.
Oui.
Qui s'appelle? Ah, Antonio de Pereda. Hein? Eh bien, là, on a de nouveau une vanité. Moi, je trouve qu'il y a peut-être quand même une petite différence.
C'est le squelette qui est animé et qui montre le reste.
Alors, voilà, là, on n'a pas un ange gracieux, c'est un squelette qui montre la vanité, oui.
Il y a beaucoup de désordre.
Voilà, je trouve qu'il y a beaucoup plus de désordre, un côté scintillant, clinquant. C'est une vanité. Tout à l'heure, c'est une vanité, alors, un peu désordonnée, mais enfin, aussi très... Les choses étaient très posées, hein. Là, on a cette espèce de désordre organisé au premier plan, extrêmement gracieux. Je prendrai l'expression que vous disiez tout à l'heure. Là aussi, on tire sur le bar. Enlevez le squelette. Enlevez-moi le noir au-dessus. Vous avez une espèce de très belle nature morte que vous auriez bien dans votre salle à manger. Hein. Il y a quelque chose de très baroque, de très... Il y a de la couleur, de la lumière, de la soie, tout ça brille. Regardez l'éclat de la couronne papale, par exemple. Hein. Voilà, vous avez une sorte de la tiare. Vous avez là une sorte de scintillement baroque qui finalement nous rappelle Herrera le jeune qu'on vient de voir. Hein. Alors bien sûr, le sujet est une vanité, c'est un peu plombant si vous voulez. Hein. Mais au-delà de ça, vous avez là quand même une sorte de traitement baroque dans ce tableau de Valdés Leal, qui est un peintre qui nous tire vers la fin du siècle. Hein. Et puis, deux dernières œuvres, parce qu'après je voudrais quand même... En 5 minutes, si vous avez une minute plus, je vous montrerai la troisième partie. Mais on aura une séance un peu spéciale à cause de nos affaires. Hein. Voilà une œuvre de Juan Carreño da Miranda. Oui, c'est l'Assomption, absolument. Et alors, là aussi, qu'est-ce que vous diriez de cette œuvre? Pareil.
Clair, oui, très, voilà.
Ben voilà, on est dans le clair, on est dans quoi d'autre? La dynamique, le mouvement. Hein. Finalement, ça nous rappelle qui?
Herrera.
Herrera, le jeune qu'on a vu tout à l'heure. Hein. Voilà. Une œuvre très proche de ça. Hein. Et puis, je crois que c'est la dernière œuvre avant l'apothéose finale, toujours de Juan Carreño da Miranda.
Bon, ça, c'est un enfant.
C'est un enfant. Bon, et vous reconnaissez, n'est-ce pas, la lippe, le menton, etc. Voilà. Hein, vous reconnaissez ça. Juan Carreño da Miranda, ça vous rappelle qui, d'ailleurs? Quel est autre artiste?
Celui qu'on a vu.
Velázquez. Ça s'appelle Velázquez. Juan Carreño da Miranda a été un des collaborateurs de Velázquez. Aujourd'hui, il y a d'ailleurs des œuvres de Velázquez. Vous savez, certaines des enfants, etc., qu'on voit que, quelquefois, on attribue d'ailleurs à Juan Carreño da Miranda. Hein, ou à Martinez Lenmazzo, vous savez, celui dont je vous ai montré une œuvre tout à l'heure, qui était son gendre. Hein, voilà. Parce qu'il y en a quelquefois tellement de ces portraits de cour, on attribue tous à Velázquez, qu'aujourd'hui, on prend un peu de distance et on dit qu'il doit y avoir des choses de ces gens qui ont travaillé avec lui dans son atelier. Alors maintenant, pour terminer, je voudrais qu'on arrive à la troisième partie, maintenant que vous avez bétonné et qu'on a regardé en détail, hein, ces œuvres. Je vais vous montrer les œuvres, mais sans légende, et ça va être à vous de retrouver de quelle partie il s'agit. Là, c'est du beurre, parce qu'on a regardé quand même les œuvres. Hein. Par exemple, là, ça c'est la fuite en Égypte, ça c'est pas compliqué, et l'auteur. Un auteur qui, vous le voyez, représente des choses élégantes, douces, sereines.
Murillo.
C'est une œuvre de Murillo, évidemment. Hein. Vous avez là quelque chose qui vous rappelle l'Annonciation que je vous ai montré tout à l'heure. Hein.
La Vierge a presque toujours le même visage.
Ah oui, absolument, c'est toujours un peu la même chose. Hein. La deuxième partie de la carrière de Murillo, hein, la première est plus âpre, on l'a vu. Hein. Dans la deuxième partie de Murillo, c'est ça. Là. Regarde, alors c'est une Annonciation, pas de problème au niveau du thème. Maintenant, quel est l'auteur ?
Celui qui a fait le Moïse tout à l'heure.
Ah, celui du Moïse tout à l'heure ? Le Moïse et le buisson ardent ? Le paysage avec plein d'arbres ? Moi, je ne vois pas beaucoup de paysages. C'est Zurbaran. Regardez ce genre de choses. Vous vous rappelez par exemple du gosse qui se piquait la main, le doigt tout à l'heure, le Christ ? C'est lui. Enfin, c'est lui. C'est pas lui. Mais c'est grosso modo la même chose. Hein. Espèce de manière très clair-obscure, n'est-ce pas ? Cette espèce de côté très réaliste aussi. Regardez la Vierge. On dirait une dame de la rue, quoi. Hein. Charmante, d'ailleurs. Mais voilà. Hein. Ça, c'est une œuvre de Zurbaran, un des Zurbarans du musée de Grenoble, hein, très, très célèbre, d'ailleurs. Hein. Velázquez, bravo. Car j'ai mis quelques petits Velázquez dans cette histoire. Hein. Histoire de piquer un peu les choses. Ça, c'est une œuvre effectivement de Velázquez, hein, tout à fait du début de la carrière. Rappelez-vous, on a vu des œuvres de ce genre la dernière fois. Ça vous rappelle quelque chose. Ah si. Le sujet vous rappelle quelque chose. Oh oui.
Ce n'est pas Saint-Louis.
Saint-Louis. C'est Saint-Louis. Vous le reconnaissez à quoi ? Qu'est-ce qu'il a sur lui ? L'hélice de France, ça va manquer. Le roi de France. Le roi de France, il a l'hélice de France sur lui. Hein ? Et donc, ce Saint-Roi, ça peut être qui ? On n'a pas 50 000 rois qui ont été saints. Hein. C'est Saint-Louis. Hein. Saint-Louis, ça nous rappelle quelqu'un. Pas Velázquez. Le Gréco. On a vu une œuvre de Gréco présentant Saint-Louis. D'ailleurs, cette œuvre, quand vous la regardez, ça vous rappelle qui comme peintre, justement ? C'est pas du Gréco.
Ah, de celui qui peint comme lui. Là.
Mais il s'appelle comment, celui qui peint ? Pas pour lui, mais qui peint proche de lui. Ah, moi, faut me dire les noms, hein, on est à l'université, on n'a pas en jardin d'enfants. Hein ? Alors, il s'appelle comment ? Il s'appelle Louis Tristan. Hein ? Ah, oui. Attention, parce que la fois prochaine, il y aura une interro écrite. Hein. La fois prochaine, on va rassurer. Hein. Il ne s'agit plus de dire c'est le copain de celui qui a. Non, non, il me faut les noms. Hein. Hein, cette fois, on rigole pas. Hein. On est à la fac. Hein. Enfin, Louis Tristan, hein. Un peintre complètement, effectivement, très proche du Gréco. Et là, il l'est à la fois par le sujet, mais également par, je dirais, le style en général. Oh, quelle horreur! C'est quelqu'un, quoi, voilà. Alors, c'est qui, ça ? Pardon ? Ah, on dirait un Botero, mais ça n'est pas un Botero. Ce qui montre que Botero n'a rien inventé, d'ailleurs. Hein. Mais, donc, ça n'est pas du tout un Botero. Pardon, oui ?
Celui qui a travaillé avec Velázquez,
donc, celui qui a travaillé avec Velázquez, hein, Juan Carreño de Miranda. Parce que ça présente qui ?
C'est une naine.
Hein. Donc c'est une naine qui est évidemment avec les enfants ou les infantes. Hein. Bravo. Enfin, brava en l'occurrence. Hein. C'est effectivement de Juan Carreño de Miranda. Hein. Celui qui a, on l'a vu tout à l'heure, travaillé très bien. Vous vous rappelez du portrait royal, enfin, oui, royal, que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. On a vu à quel point c'était proche de Velázquez. Ben là, il reprend ce type de sujet. Et vous voyez, hein, c'est une naine, mais elle est élevée, elle est représentée comme une princesse.
Oui, voilà. Mais il y a quand même nain et nain. Il y a des nains avec des maladies qui font qu'ils sont nains. parce que c'est les os qui sont mal formés. Et puis d'autres qui sont nains parce qu'ils ont des maladies endocriniennes.
Celle-là.
Et là, elle n'est pas déformée.
Elle n'a pas le faciès du nain.
Elle n'a pas le faciès tel qu'on a pu la voir.
N'empêche qu'elle est naine quand même.
Elle est naine quand même, d'accord.
Donc, si vous voulez, c'était un peu le but. C'est-à-dire que le but des souverains espagnols est de s'entourer de ce type de personnage. C'est à la fois pour montrer que ce qu'on pourrait croire être une monstruosité est en fait, peut être une proximité. Et puis aussi, c'est des personnages, puis ils sont étranges. C'est un peu comme dans les cultures anciennes, ils sont dotés de certains pouvoirs. C'est-à-dire que l'étrangeté physique, c'est en fait un pouvoir. Et donc la bizarrerie physique est un plus et non pas un moins d'une certaine manière.
Ceux qui sont affligés, c'est quand même un moins.
Ah, c'est sûr. Hein. Mais c'était une manière, si vous voulez, de faire sortir de ce carcan-là certains types de personnes. Alors, ça représente quoi ? Le Christ. Et qu'est-ce qu'il fait le Christ là ? Il enlève ses vêtements. On l'a vu hier chez un artiste, ça, déjà. Oui. Chez qui ? Greco. Hein ? L'espolio, le Christ qui se déshabille, finalement. Hein, voilà. Qu'est-ce que vous diriez de cette peinture ? Moi, il y a une chose qui me frappe.
L'ange.
Pardon ? Oui, c'est allongé, il n'y a que le personnage. Ça, on l'a vu beaucoup.
Il pend vers le bas.
Oui, c'est vrai.
C'est très... Ça fait penser une statue, mais...
Ça fait penser une statue. C'est très sculptural. Ça nous rappelle qui, ça ? Ça nous rappelle qui ? Et on ne regarde pas ses notes. Alors, de toute façon, on ne voit pas clair. Ça nous rappelle Alonso Cano, parce que c'est d'Alonso Cano. Donc ça peut le rappeler. Alonso Cano est un peintre, un sculpteur. Voilà une peinture qui est une sorte de sculpture. Et vous reconnaissez toujours cette sorte d'élégance, hein, c'est pas le Christ, c'est vrai, il y a vraiment une sorte d'élégance culturelle, ben, ça tombe bien, Alonso Cano est peintre et sculpteur. Et là,
Jean Baron,
vous savez, on a vu qui se rapproche de ça tout à l'heure.
Saint-Agathe.
Hein. Je vous... Bon, hein, voilà, Saint-Agathe. Hein. Je vous aide, hein. On a vu Saint-Agathe tout à l'heure. Hein. Alors... Là, c'est une sainte qui est plus espagnole, Sainte Casilda de Séville, voilà, qui est donc ici représentée. Alors ça, c'est qui, ça ? Pardon ? Murillo ? Il est au Louvre, effectivement.
Hein ?
Murillo. Donc c'est un peu comme le mendiant de tout à l'heure. Hein ? Ça, il s'appelle comment, ce tableau ? Le Piebo. Hein ? Un tableau de Murillo.
Et puis c'est pas ça.
Parce que ce Murillo, en fait, c'est Ribera. Hein ? Ribera. Mais ça ne doit pas nous étonner, parce que Ribera, comme Murillo, comme Velázquez, ils représentent ces personnages, ces mendiants des rues. Hein ? On a vu des choses déjà équivalentes. Vous donnez votre langue au chat ?
Non.
Aussi, on les a vus. Et comment, même ? Jean-Baron. Jean-Baron, ça nous rappelle quoi, par exemple ? Qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure de proche de ça ? On a vu plusieurs, d'ailleurs. Oui, le moine, par exemple. Vous vous rappelez, Saint-François ? Hein ?
Non.
Ça, c'est Saint Séraphion.
Il est très moderne.
Ah, c'est extraordinaire. Jean-Baron, c'est extraordinaire. Jean-Baron, c'est extraordinaire. Facile. Pardon ?
Un des derniers ?
Ah, plutôt au départ. Pereda. Hein ? Antonio. Pardon, Coyantes. Attendez, je mets ma langue au chat parce qu'il y a peut-être un petit problème dans la... Ouais.
C'est celui qui... Il reprend parfois.
Oui, je suis désolé, j'ai peut-être fait une erreur dans la... Il faudra que je regarde. Peut-être que je regarderai pour la prochaine fois. J'ai peut-être fait une erreur dans la... Dans l'attribution, absolument. En tout cas, ça nous rappelle beaucoup, vous savez, la première des natures mortes qu'on a vue. Hein? Alors, ça pourrait être Herrera le jeune, mais c'est cette vierge si douce, si charmante, acidulée. C'est Murillo. Murillo a fait des quantités d'Immaculée Conception, vous vous rappelez ? On en avait vu une barre Gréco l'autre jour. Hein ?
C'est la nature morte du début avec le cardo, quoi.
Alors, il s'appelle comment, l'auteur de la nature morte du début ? Sanchez Cotan. Ça ressemble beaucoup à Sanchez Cotan. Sauf que c'est pas lui. C'est quelqu'un qui a fait des quantités de scènes autres, mais où il y a souvent des objets.
C'est Ribera ?
Zurbaran. Zurbaran a fait aussi des natures mortes comme ça. C'est magnifique, hein ? C'est très organisé. C'est paf, c'est présent.
Ah, ils sont tous alignés.
Tous alignés. Herrera l'ancien, bien sûr. Évidemment, une évidence.
On
l'a
déjà vu.
Oh, des sœurs, je ne suis pas très sûr. Je pense que ça, c'est plutôt ce qu'on appelle en Espagne la maîtresse. Una Celestina.
Oui. La maîtresse.
Ça veut dire que c'est une mère maquerelle avec une prostituée. Voilà. C'est qui ? Un artiste qui quelquefois représente des choses de la rue, de la vie.
Celui qui a fait le
mendiant. Qui dans la première partie de sa carrière... Oui, celui qui a fait le mendiant. Bon, vous nous verrez, ils en ont tellement fait de mendiant. Eh ben voilà. Murillo. Alors, vous voyez, le Murillo du début, c'est pas du tout le Murillo des vierges de la fin qui s'envolent vers le ciel. Hein. Murillo du départ, c'est des scènes très quotidiennes. Celle-là est extraordinaire. Hein. On a l'impression d'une fenêtre en trompe-l'œil. Hein. Étonnant.
C'est pas celui qui avait fait
Le buisson ardent. Absolument. Absolument. Hein. C'est le buisson ardent. Alors là, il a mis un personnage un peu plus grand, hein, en l'occurrence Saint Jean-Baptiste, hein, mais c'est celui qui a fait le buisson ardent. C'est-à-dire, c'est en fait Collantes, c'est vraiment le paysagiste espagnol du XVIIe siècle, hein, mais là, le prétexte a pris un peu plus de place. Quelquefois, il donne ses personnages un peu plus d'importance, mais il y a toujours un fond de paysage très très prégnant.
Velázquez,
vous avez raison. Ça, c'est le Velázquez. Donc, c'est un bouffon. Hein. Pablo de Valladolid. Alors ça, c'est de...
Sanchez
Cotan. Ah, et ben voilà. Et là, c'est de lui, il n'y a pas de problème. C'est pas de Zurbaran. Ah, on sent mieux. Oui. Et l'auteur ? Pardon ? Oui, ça ressemble un peu à sa famille de tout à l'heure. Sauf que... C'est Velázquez. Il a aussi, vous avez fait des choses comme ça, hein, très réalistes. Ah, je vous montre ça pour vous montrer comment... vous voyez, il appartient bien à son temps, quoi, quand même. Hein. Non, c'est vrai que ça peut faire un peu penser à ça. Une figure très présente qui prend toute la place, une sorte d'âpreté, du clair-obscur, de l'élégance, mais une femme qui peut être une femme, j'allais dire, de tous les jours.
On dirait qu'elle est dans une grotte.
C'est Sainte-Madeleine. Elle est dans une grotte, c'est Sainte-Madeleine.
C'est Sainte-Madeleine. Elle a des yeux un peu bizarres.
Oui. Ah, elle voit des choses.
Qui sont pas un peu de travers, même.
Un peu.
Ribera.
C'est Ribera. Rappelez du son de Jacob tout à l'heure, hein, cette manière qu'il a de mettre des gens, j'allais dire, normaux dans des situations qu'elles ne le sont pas.
Ah, c'est le dernier, le fils, là.
Là. Oui, c'est le fils. Herrera, le jeune. Hein, faut rappeler ces choses qui montent dans le ciel. Saint Émergilde, dont je n'arrive jamais à prononcer le nom. Hein.
L'apothéose de l'Eucharistie.
Eh oui, parce que vous avez l'Eucharistie là, et les saints tout autour, et même la Vierge, qui arrive devant l'Eucharistie. Velázquez.
C'est un...
C'est un philosophe, c'est Démocrite. Vous savez, il y a dans l'Antiquité Démocrite et Héraclite, il y en a un qui rigole du monde, c'est Démocrite, et un qui pleure du monde, un qui dit « Oh, le monde, ils sont tous fous dans le monde », c'est Démocrite, c'est pour ça qu'il montre toujours le monde en rigolant. Et puis il y avait sûrement un pendant qui représentait Démocrite, qui est lui qui devait pleurer en montrant le monde, en disant « Le monde, c'est épouvantable, finalement, les humains, on n'en tirera jamais rien voilà. ». Hein, c'est la grande idée de Démocrite et Héraclite, des philosophes, qui sont, vous voyez, pas du représenter comme des philosophes grecs. Hein. Ça nous rappelle le Ribera de tout à l'heure, vous savez, le Cratès que je vous ai montré. Hein. Et bien, Velázquez fait un peu le même genre de choses. Un supplice. C'est un supplice de Saint-Philippe. On n'est pas obligé de savoir qu'il a été écartelé. Bon. Saint-Philippe. C'est Ribera. Ce côté très réaliste, vous voyez, notamment le type même du personnage de Saint-Philippe. Je vais un peu vite, hélas, on a presque fini. Hein. Alors ça fait beaucoup penser à Velázquez, sauf que c'est Martínez del Mazo, c'est-à-dire son gendre. Hein, vous savez, il y en a deux, hein, Carreño de Miranda et Martínez del Mazo. Martínez del Mazo, son gendre, qui a beaucoup travaillé avec lui, et qui, encore une fois, a fait les œuvres que maintenant on attribue plus à lui qu'à Velázquez. Ben voilà, encore le portrait d'une infante. Alors là, c'est un peu difficile. Alors, c'est la scène représentée...
Ah non, Madeleine qui voilà. L'arme et les pieds.
Voilà, hein, vous savez, c'est le repas chez Simon où Madeleine nettoie les pieds du Christ avec ses cheveux. Hein, vous connaissez cette scène. Une scène où il y a beaucoup de choses scintillantes, clinquantes, déjà assez baroques, pourrait-on dire, beaucoup d'effets. On a vu comme ça une nature morte tout à l'heure, avec beaucoup d'effets. Valdés Leal, vous rappelez ? Le squelette, là. Avec cette nature morte, vous voyez plein de choses, ça clinquait, ça brillait. C'est de lui. Hein ? Valdés Leal.
Le Gréco ?
Non. Ça pourrait, mais c'est pas. C'est en fait de Juan Carreño de Miranda. Hein ? C'est un des peintres dont je vous ai montré déjà une œuvre un peu dans ce genre-là tout à l'heure. Et puis pour terminer. Pardon ?
Les yeux ont une façon de nous regarder, de toute façon.
Ouais. Étonnant. Hein. Voilà, alors on est allé un peu vite sur cette deuxième partie, je suis désolé, mais voilà, les questions techniques nous ont bien embêtés aujourd'hui. Voilà, alors la prochaine fois, ce sera la cinquième et dernière séance, qui sera évidemment consacrée à la période suivante, mais qui sera consacrée également à un petit regard sur l'ensemble, hein, pour confirmer les connaissances. C'est comme ça qu'on dit, hein. Puis puisqu'on réforme le baccalauréat, ben voilà. Hein. J'ai pas le temps de vous le demander là, mais je vous le redis. La prochaine fois, je vous demanderai si vous avez des idées par rapport à des ateliers l'an prochain. Là, on n'a pas le temps, parce qu'il est déjà moins 10. Donc, on ne va pas alourdir la séance. Mais pensez bien la fois prochaine à amener vos idées pour qu'on puisse voir quelles sont. Eh bien, merci. Bonne soirée. Merci.